Oui, Albanadejo passe la balle à Patrice Delbourg qui dribble et passe à Suarez. Ils sont merveilleux. Oh, Suarez passe à Lyotard. La défense du Real Saint-Germain reste clouée sur place, chers téléspectateurs. Et oh, Lyotard, Lyotard passe à James Joyce qui passe à Pand qui lui repasse la balle. Décidément, les joueurs du Real Saint-Germain ne peuvent rien faire contre une telle attaque. On entend d'ici Joyce qui fonce tout droit vers les buts. Joyce qui crie « Oui, je veux bien, oui, je veux bien, oui !» Gide, le terrible gardien Gide, se dandine comme un ours bardé de ses genouillères, de ses accoudières, de ses ventripotières. Il est énorme entre les deux barres blanches. Joyce fonce toujours. Il est tout près, oui. Il en a, il est entre les deux poteaux, la foule hurle debout. Vous les entendez d'ici, oui, il shoot, oui, but, il a marqué, but, oui.
Radio Fréquence Paris.
Pluriel.
106.3, voix du texte. Rendre la voix au texte et voler la parole à leur commentateur.
14. 16. 17, 17, 18, 19, 19.
Alors, collègues, on a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque et en 15 points de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout.
Aujourd'hui, 20 janvier 2009, écrire le parler. Comment retranscrire à travers l'écrit le langage parlé, comment ensuite, aller-retour fatal, dire. Un langage écrit qui s'est inspiré du parler, voix du texte, Chromos Compagnie.
Quand ils ont découvert le feu, l'homme et la femme ont vu le soleil qu'ils ne touchaient pas, et sa lumière a éclairé tout ce qu'ils ne pouvaient pas toucher. Le monde est devenu infini devant eux, tout s'est éloigné jusqu'à disparaître derrière leurs mains et devenir insaisissable.
La vérité, là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mévente. Et allez pas croire un seul zéro à tous ces prétendus tirages à 100 000, 40 000 et même 400 exemplaires attrape-gogo. Alas. Seule la presse du cœur et encore se défend pas trop mal. Et un peu la série noire. Et la blême. En vérité, on vend plus rien, c'est grave. La télévision, le scooter, les articles de ménage, l'auto, à 2, 4, 6 chevaux, font un tort énorme au livre. Tout vend à tempérament, vous pensez? Et les week-ends? Et ces bonnes vieilles vacances billes, trimensuelles, et les croisières lolo-lulu? Salut, petit budget, voyez, dette, plus un fifrelin disponible. Alors n'est-ce pas acheter un livre? Une caravane encore, mais un livre. L'objet empruntable entre tous. Un livre est lu, c'est entendu par au moins 20-25 lecteurs. Hein? Si le pain ou le jambon, mettons, pouvait régaler tout autant. Une seule tranche, 20-25 consommateurs, quelle aubaine. Le miracle de la multiplication des pains, ça laisse rêveur. Mais le miracle de la multiplication des livres, et par conséquent la gratuité du travail d'écrivain, est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu le plus tranquillement du monde, à la foire d'empoigne, ou avec quelque façon par les cabinets de lecture, etc., etc., etc. Dans tous les cas, l'auteur fait Tintin. C'est le principal. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle, ou d'une rente, d'un très grand parti, ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret pour vivre sans bouffer. D'ailleurs, toute personne de condition vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre. Et pas qu'un peu, et tant et plus, puisqu'il n'enfante que dans la douleur. Et que la douleur, n'est-ce pas, c'est son maître. Au total, si vous regardez bien, vous verrez nombre d'écrivains finir dans la dèche. Tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. N'est-ce pas cocasse ? Justement, je parlais de tout ça l'autre jour à Gaston. Gaston, Gallimard. Les livres, Gallimard. Hein. Et Gaston y trouvait, pour ce qui me concerne, que je devrais bien essayer de rompre le silence qui m'a fait tant de tort. Le rompre, un bon coup, sortir de mon effacement, pour faire reconnaître mon génie. Non, j'ai dit. Mais vous jouez pas le jeu, qui concluait. Il me reprochait rien. Mais quand même. Il est mécène, c'est entendu, Gaston. Mais il est commerçant aussi. Comme je voulais pas lui faire de peine, je me suis mis à me retrouver dardard, sans perdre une minute, quelque aptitude à jouer le jeu. J'ai compris, et d'une, avant tout, illico presto, que jouer le jeu, c'était passer à la radio, toutes affaires cessantes. D'aller y bafouiller, tant pis, n'importe quoi, mais d'y faire bien épeler son nom 100 fois, 1000 fois, que vous soyez le savon grosse bulle, ou le rasoir sans lame gratouilla, la même sauce. Même procédé. Et sitôt sorti du micro, vous vous faites filmer. Alors en détail, hein, filmer votre enfance, votre âge mûr, votre puberté, vos moindres avatars. Et terminer le film téléphone. Que tous les journalistes rappliquent. Là, vous leur expliquez pourquoi vous vous êtes fait filmer en détail votre enfance, votre puberté, tout ça. Qu'ils impriment tout ça dans 100 journaux, puis qu'ils vous photographient, puis que ça repasse dans 100 journaux, encore et encore. Moi, n'est-ce pas, je me voyais déjà embarqué dans un de ces affreux pataquès. Glorifier ci, justifier ça. D'ailleurs, des amis publicistes m'ont carrément refroidi. Tu t'es pas vu, Ferdinand ? Pourquoi pas télévisionner avec ta poire, avec ta voix ? Non mais, tu te regardes jamais dans la glace. T'as des gaines. Moi, je me regarde pas souvent dans la glace, c'est vrai. Et le peu que je m'y suis regardé à travers les ans, je m'y suis toujours trouvé de plus en plus laid. D'ailleurs, c'était l'avis de mon père, il me trouvait hideux, il me conseillait de porter la barbe. Mais c'est du soin, la barbe, mon fils, puis t'es cochon, donc tu pueras. Quant à ma voix, je la connais pour crier au feu. Elle porte, mais je vais pas lui demander du charme. En somme, ni écoutable, ni regardable, fallait que je me trouve un intervieweur. Alors j'en trouvais un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 10, qui était très capable et qui voulait bien, mais qui me posait une condition, que je les mouille pas, que je les cite pas. Ils acceptaient, mais anonymes. Ah ben, je comprends très bien les prudences. Et comment ? On n'est jamais assez prudent. À la fin, ils étaient 50. L'embarras du choix. Comme je voulais vexer personne, comme je fus embarrassé. Certains si déclamatoires, d'autres tellement discutailleurs. J'en trouvais un, ça valait mieux, qui m'était tout à fait hostile. Sournois, méfiant, il voulait pas venir chez moi, il voulait pas que j'aille chez lui, il voulait que d'un endroit public où on passerait inaperçu. C'était à 11h. 11h du matin. Notre rendez-vous. Moi, j'y étais à 10h30, vous dire. Arriver très en avance, c'est la tactique habituelle des gens qui se méfient, qui veulent renifler les abords. La veille qu'il faudrait arriver. Enfin, soit. Bon, nous étions là. Je m'attendais à ce qu'ils me questionnent. C'était convenu. Rien. Ils restaient muets à côté de moi. J'aurais fait venir un autre bourru si j'avais su. J'en manquais pas, un cœur aurait grogné un peu. Mais un hostile, absolument muet comme cette tigrette, c'est moche. Vous êtes joliment peu aimable, monsieur le professeur Y. On est là pour une interview, n'ayez pas peur. Personne va venir vous kidnapper. Céline, 1955. Entretien avec le professeur Y. Thank you.
Michaël Jarel, Cassandre, un monodrame pour comédienne, ensemble et électronique, sur un livret d'après Christa Wolf. Marthe Keller, comédienne, David Robertson au pupitre, assistant musical, Pierre Charvet.
D'un seul coup, tous ceux, dont moi, qui tenaient à l'expression haute, faisaient l'objet de soupçons. Maintenant, au banquet, on pouvait réparer les coupements. C'était nouveau. Trois s'étaient transformés à mon insu. Ma mère Écupe n'était pas du côté de ce Demenos. Je voyais son visage se pétrifier chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Priam semblait vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais Paris, mon bien-aimé frère Paris, était déjà dans la mouvance de Demenos. Le beau jeune homme svelte, tout dévoué à l'homme massif à la tête de cheval. Aucun de nous, aucune prophétesse, aucune augure n'eut ce soir-là l'ombre d'un pressentiment. Les uns se faisaient de plus en plus silencieux, et les autres, les partisans de Demenos, élevaient de plus en plus la voix. Paris, qui avait déjà trop bu, s'adressa en haussant le ton à son voisin, le grec Ménélas, faisant allusion à l'épouse de ce dernier, Hélène. Ménélas, un homme posé, plus très jeune, et qui ne cherchait pas querelle, répondait poliment au fils de son hôte, jusqu'au moment où les questions se firent si insolentes qu'Écupe se laissant emporter par une colère inhabituelle, intima son fils l'ordre de se taire. De mort s'installa dans la salle. Seul Paris pendit en criant. Comment ça me taire? Ça recommence? Ça n'en finira donc jamais? Ah non, ces temps sont révolus. C'est moi, Paris, qui irai reprendre aux ennemis la sœur du roi. Mais si on me le refuse, il en est une autre. Plus belle, plus jeune, plus noble. On me l'a promise. Tenez-vous-le pour dit! Jamais auparavant, un silence pareil n'avait régné sur le palais de Troie. Chacun sentait qu'une frontière venait d'être violée. Jamais un membre de notre famille n'avait eu le droit de parler ainsi. Mais moi seul, j'ai vu. Ce fut en cet instant que se déclencha le mécanisme conduisant à notre perte. Immobilité du temps. Je crus être devenue définitivement étrangère aux autres et à moi-même, jusqu'à ce qu'enfin, l'épouvantable tourment, sous la forme d'une voix, sortant de moi, me déchirant pour se frayer un chemin, se libéra de moi. Une petite voix sifflante au bout de son registre qui chassa le sang de mes veines. À mesure qu'elle s'enfle, elle se fait plus hideuse, déclenchant un tremblement, un entrechoquement de tous mes membres. Mais la voix s'en moque. Malheur, criait-elle. Malheur. Ne laissez pas partir le vaisseau! C'est alors qu'un voile s'appétit sur ma pensée. L'abîme s'ouvrit, ténèbres, je m'y engouffrai. Paraît-il que j'éructais d'une manière effrayante, que l'écume jaillissait de ma bouche. Sur un signe de ma mère, les gardiens m'ont saisi aux aisselles et m'ont entraîné hors de la salle. On m'a enfermé dans ma chambre. On m'a dit que les médecins du temple se sont précipités vers moi. Aux convives, abasourdis, on a dit que j'avais besoin de repos, que je reprendrais certainement mes esprits, qu'il ne fallait pas grossir l'incident. Comme portée par le vent, la rumeur courut parmi mes frères et sœurs que j'étais folle. Depuis combien de temps n'ai-je pas songé aux jours anciens? C'est vrai, la mort proche mobilise encore une fois la vie entière. 10 années de guerre, elles furent assez longues pour qu'on n'oublie pas tout à fait cette question. Comment la guerre a-t-elle commencé? Au milieu de la guerre, on se demande uniquement comment elle prendra fin. Et on repousse la vie à plus tard. Quand la guerre commence, on peut le savoir. Mais quand on commence l'avant-guerre? Si jamais il existait des règles en la matière, il faudrait les transmettre aux autres, gravées dans l'argile, dans la pierre. Que pourrait-on y lire? Ne vous laissez pas tromper par les vôtres. Paris. Paris, lorsqu'il finit par revenir au bout de plusieurs mois, curieusement sur un vaisseau égyptien, fit descendre à terre une personne entièrement dissimulée sous un voile. La foule se tut, retenant son souffle. Dans chaque homme apparut l'image de la plus belle des femmes, si rayonnante qu'elle aurait ébloui, s'il avait pu la voir. D'abord timidement, puis avec enthousiasme, ils se mirent à scander « Hélène ! Hélène ! » Hélène ne se montra pas. Elle n'apparut pas non plus au festin. La langue traversée l'avait épuisée. Paris devenait un autre homme. Remue tes cadeaux raffinés d'une part du souverain égyptien. Raconta tes choses prodigieuses, parlant, sans retenue. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Je n'arrivais pas à saisir ses yeux. D'où provenait ce trait oblique dans son beau visage? Quelle causticité avait accusé ses traits, naguère si tendres? Chaque fibre au moins se refusait à admettre qu'il n'y avait pas de belle Hélène à toi. Lorsque les autres résidents du palais laissèrent entendre qu'ils avaient compris et que tous les regards s'abaissaient chaque fois que, seul encore à le faire, je prononçais à nouveau le nom d'Hélène, allant jusqu'à proposer de soigner moi-même celle qui était encore si fatiguée. Et lorsque cette offre fut repoussée, même à ce moment-là, je ne voulais pas encore penser l'impensable. Par la suite, nous avons tous oublié d'ailleurs le motif de la guerre. Après la crise de la troisième année, les guerriers cessèrent eux aussi de réclamer qu'on leur montrât Hélène. Ils ne se soucièrent plus d'elle et défendirent leur peau. Mais pour pouvoir acclamer la guerre, il leur fallait ce nom. C'est lui qui les transportait au-delà d'eux-mêmes.
Remarquez bien, nous disent Anchise. Le père d'Aîné. Remarquez bien qu'ils ont pris une femme. Un bonhomme aurait pu tout aussi bien incarner la gloire et la richesse, mais la beauté, un peuple qui se bat pour la beauté.
Paris lui-même, à contre-cœur, semblait-il, s'était rendu sur la place du marché pour y jeter en pâture au peuple le nom de la belle Hélène. Les gens ne remarquèrent pas son absence de conviction. Moi, je l'ai remarqué. Pourquoi pars-tu si froidement de ton ardente femme, lui ai-je demandé. Mon ardente femme, répondit-il sur un ton sarcastique. Réveille-toi, ma sœur. Enfin quoi? Elle n'existe pas?
La gélatine sans art, sans âme, bon pour les chiottes. Mais y'a mon roca, je reste vrai, y'a que ça qui me botte. J'en veux parfois au public qui préfère acheter de la camelote.
Voix du texte. Molière, Don Juan, dialogue Charlotte Pierrot.
Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débande mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien! Et je somme pour être marié ensemble! Mais t'estimes que je ne suis pas satisfait de toi?
Mais comment? Qu'est-ce donc, Iglia?
Iglia, tu me chagrines l'esprit, franchement.
Mais comment donc?
Jarni, que tu m'aimes point. Ah,
n'est-ce que ça?
Oui, c'est ça, c'est bien assez!
Oh, mon Dieu, Pierrot, tu me tiens toujours bien à la même chose!
Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose! Si c'était pas toujours la même chose, je te dirais pas toujours la même chose!
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, que veux-tu?
Charlie, qu'est-ce que tu m'aimes?
Est-ce que je ne t'aime pas?
Non, tu m'aimes pas! Et si? Je fais tout ce que je puis pour ça.
T'achètes sans reproche des rubans à tous les messieurs qui passeront. Je me rends le cou à te le dénicher des mâles. Je vais jouer pour toi les vielleux quand ça vient ta fête. Et tout ça, comme si je me tapais la tête contre un mur. Vois-tu, ça n'est ni pio ni honnête de n'aimer pas les gens qui vous aiment.
Mon vieux Pierrot, je t'aime aussi.
Oui, et même d'une belle dégaine.
Comment veux-tu qu'on fasse?
Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut.
Mais est-ce que je ne t'aime pas comme il faut?
Non! Quand ça est, ça se voit.
Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien à dire, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors, on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. Bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là assis, ravi, à regarder les dames du café. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit y rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, bon, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison, somme, que j'ai convenu, conciliant, mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire, et qu'est-ce qu'on en a? Rien! Des coups de trique seulement, des misères, des bobards, et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rouspignoles, et puis voilà. En haut, sur le pont, au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leur chapeau haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qu'ils ont sur la poterie numéro 2. Et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Allez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la poterie numéro 1! Qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu.
Mon oncle Jules devint très vite mon grand ami. Il me félicitait souvent d'avoir tenu la parole donnée et d'avoir gardé le secret au temps des rendez-vous du Parborelli. Il disait à qui voulait l'entendre que cet enfant ferait un grand diplomate ou un officier de premier ordre. Cette prophétie, qui avait pourtant une alternative, ne s'est pas encore réalisée. Il tenait beaucoup à voir mes bulletins scolaires et me récompensait, ou me consolait, par des jouets et des sachets de berlingots. Cependant, comme je lui conseillais un jour de faire construire une petite maison dans son admirable parc Borelli, avec un balcon pour voir les cyclistes, il m'avoua sur le mode badin qu'il n'en avait jamais été le propriétaire. Je fus consterné par la perte instantanée d'un si beau patrimoine, et je regrettais d'avoir si longtemps admiré un imposteur. De plus, je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi, et il me sembla que je n'étais plus en sécurité parmi elles. Mais d'un autre côté, cette révélation, qui justifiait mes propres mensonges passés, présents et futurs, m'apporta la paix du cœur, et lorsqu'il était indispensable de mentir à mon père, et que ma petite conscience protestait faiblement, je lui répondais, comme l'oncle Jules, alors, l'œil naïf et le front serein, je mentais admirablement. Un beau jour, nous changeâmes de maison, car mon père jugeait que notre appartement était devenu trop petit. Il obtint une indemnité de logement, et nous allâmes habiter dans la rue Terrus, un grand rez-de-chaussée que complétait un sous-sol, éclairé sur le derrière par un petit jardin. Ce fut l'une des grandes étapes de notre vie. Ma mère, toute rouge d'orgueil, éblouit la tante Rose en lui montrant qu'elle disposait désormais de 8 placards et penderies. Quant à moi, je racontais ce palais à l'école, et pour donner une idée de sa richesse, J'affirmais, sans mentir, qu'on pouvait y jouer aux cachettes. Un tel luxe me fit pas mal d'envieux. Il y eut heureusement des incrédules qui restèrent mes amis.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM, Voix du texte, une émission qui aujourd'hui est dédiée à la recherche du langage parlé à travers l'écrit, la retranscription du langage parlé dans l'écrit et les variations de l'inspiration que peut provoquer le langage parlé quand il contamine l'écrit. Écrire un langage parlé, c'est toujours écrire une géographie précise en plus d'écrire un temps précis.
Ainsi, nous irons voir chez Adamoff et Céline les Parigots, Pagnol le Provençal et Sangor l'Africain.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
Allemagne 1945, le camp de concentration de Nattweiler, où la petite ouvreuse André Delamain, a été à son tour déportée.
Mais oui, je ris. Mais toi, au lieu de rire, tu devrais te féliciter, je m'excuse, de ce hasard extraordinaire. Après s'être battu avec ce Polonais, ce sale capot qui croyait pouvoir faire la loi dans la baraque, voir s'amener notre SS qui a commencé à me frapper, comme de juste, c'est vrai, mais qui, quand le Polonais a crié « Regardez un peu ce qu'il a dans ses poches, il est armé le salaud !» m'a fouillé, et je te le répète pour la
500e fois.
Peut-être la 500e, je n'ai pas compté, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que quand ce cher SS m'a fouillé, il n'a trouvé dans mes... ou plus exactement, dans ma poche... qu'un poème de Hölderlin. Écoutez-le, ce poème, mes amis. Il commence comme cela. « Crier que la clarté se fasse, n'entendre ni ne voir. » Ah non, il commence, je crois, par « paisiblement le Neckar ». Enfin, peu importe, texte français, traduction, mais c'est signé Hölderlin quand même.
Et c'est parce que le SS a trouvé dans ta poche un poème de Hölderlin, poète Bosch, qu'il t'a illico proposé de nous faire évader tous les trois. Mais est-ce que vous n'êtes pas tombés sur la tête, vous deux? Allons.
Libre à toi de croire que nous sommes tous les deux tombés sur la tête. Seulement toi, tu la perdras ici, ta tête. Oh, te fâche pas, on ne te force pas la main ni les pieds. Tu peux rester ici dans ce bon camp de Nattweiler, mais nous deux, nous foutons le camp. Car nous deux, nous savons que le hasard, ça existe, comme Hölderlin a existé. Et comme les camps de concentration existent, et les siens... Et bien des choses encore.
Et comment on en sortirait de ce camp?
Je te l'ai déjà dit 600 fois, comment on en sortirait de ce camp. Pas au petit bonheur, bien sûr. Les camps français, Argelès et compagnie, pas question de ça. Ici, on est chez les Boches. Et chez les Boches, les barbelés n'ont pas de trou. Et aussi, détail non négligeable ici, les barbelés, ils sont électrifiés. Oh, c'est qu'on en a appris des choses. Est-ce que je peux avoir mal?
Où ça?
Dans le dos.
Et alors, comment est-ce qu'on en sortira? Mais parlez, racontez, ça m'intéresse.
Alors, le SS poète nous détachera. Eh oui, nous sommes attachés, il nous détachera. Dans une brigade de travail, on bossera d'or, on refera des routes, tout comme les prisonniers de guerre, comme de braves gens, en somme. Et puis son petit ami, je veux dire le petit ami du SS poète, le gros rouquin.
Ah, le gros rouquin. Oui, celui qui a frappé le petit Belge en pleine gueule, simplement parce qu'il l'avait trouvé en train de fumer.
Non! Pas simplement parce qu'il fumait, parce qu'il était communiste aussi, et que par-dessus le marché, il avait dit que les gars qui acceptaient d'aller avec les filles polonaises dans le bordel du camp seraient descendus par ses copains.
Et maintenant, le gros rouquin accepte, bien que nous ne soyons jamais allés dans le bordel du camp. Non, mais vous rêvez éveillés, tous les deux. Mais excusez-moi, pauvre fou.
Et maintenant, le gros rouquin accepte de sauver ces pauvres fous que nous sommes, et cela tout bonnement parce qu'il a reçu des ordres de Georg Scheller. Pourquoi Georg Scheller veut-il nous sauver? Ça, c'est une autre affaire, et qui n'est pas seulement liée à Hölderlin. Je vais te le dire pourquoi il veut nous sauver. Parce que son amie, l'infirmière, celle que tu détestes tellement, aime bien Guy. Et que, ma foi, cela a plu à Georg, qu'elle aime bien Guy.
Il n'est pas interdit de rêver, camarade.
Je ne sais pas si tout ça a plu au SS Scheller de son nom de famille, mais je sais effectivement que j'ai plu à la belle infirmière. Et j'avoue que j'en suis un peu baba. Quand je pense à la gueule que j'ai et à tous les poux.
Des poux de corps et non pas des poux de tête.
Mort à crédit. Comme il y avait juste 10 ans qu'il faisait partie de la coccinelle, mon père, il a eu des vacances. 15 jours et payé. Qu'on s'en aille comme ça, tous les trois, c'était pas très raisonnable. C'était des sommes folles. Mais il faisait un été terrible et dans le passage, on en crevait. Moi surtout, qui étais le plus livide, qui souffrait de croissance. Je tenais plus en l'air d'anémie. On a été voir le médecin, il m'a trouvé inquiétant. C'est pas 15 jours... C'est 3 mois qu'il lui faudrait au grand air. Voilà comment il a parlé. Votre passage qu'il a dit, en plus, c'est une véritable cloche infecte. On n'y ferait pas venir des radis. C'est une pissotière sans issue. Allez-vous-en. Il était si catégorique que ma mère est rentrée en larmes. Il a fallu qu'on trouve un joint. On voulait pas taper trop fort dans les 3 000 francs d'héritage. Ils ont donc alors résolu de tenter encore les marchés. Mers, Onival et surtout Dieppe. Il a fallu que je promette de me tenir tout à fait peinard, de plus bombarder les cadrans, de plus obéir aux voyous, de plus quitter ma mère d'un pouce. J'ai juré tout ce qu'on a voulu, d'être sage et même reconnaissant, qu'en revenant je ferai bien des efforts pour passer mon certificat. Ainsi rassuré sur mon compte, ils ont dit qu'on pouvait partir. On a fermé le magasin. On irait d'abord à Dieppe avec ma mère, se rendre compte 1 mois d'avance. Madame Divonne viendra regarder de temps à autre s'il ne se passait rien d'insolite pendant notre absence. Papa, il nous rejoindrait plus tard. Il ferait la route en bicyclette. Il passerait 2 semaines avec nous.
Marcel Pagnol, L'amour des mots.
Le soir à table, sous la lampe tempête nimbée de moucherons, balançant doucement mes jambes alourdies en face de ma mère toute belle, j'écoutais la conversation de ces vieux mâles. Ils discutaient assez souvent de politique. Mon oncle faisait des comparaisons désobligeantes entre M. Falière et le roi Louis XIV. Mon père ripostait en décrivant un cardinal en forme de point d'interrogation parce que le roi l'avait enfermé dans une cage de fer. Puis il parlait d'un certain Lagabelle qui ruinait le peuple. D'autres fois, l'oncle attaquait des gens qui s'appelaient les radicaux. Il y avait un monsieur Comble qui était un radicaux et sur lequel il était difficile de se faire une opinion. Mon père disait que ce radicaux était un grand honnête homme, tandis que l'oncle le nommait la fine fleur de la canaille et offrait de signer cette déclaration sur papier timbré. Il ajoutait que ce Comble était le chef d'une bande de malfaiteurs qui s'appelait les francs-maçons. Mon père parlait aussitôt d'une autre bande qui s'appelait les jésuites. C'était d'horribles tartruffes qui creusait des galeries sous les pieds de tout le monde. Alors l'oncle Jules s'enflammait et le sommait de lui rendre tout de suite le milliard des congrégations. Mais mon père, qui pourtant ne tenait pas à l'argent, répondait avec force « Jamais, jamais on ne vous rendra tant de richesses arrachées sur des lits de mort à des agonisants terrorisés. » Alors ma mère et ma tante posaient aussitôt des questions urgentes sur le phylloxéra dans le Roussillon ou sur la nomination imméritée d'un instituteur dans une école supérieure et la conversation changeait brusquement de ton. D'ailleurs, ce qu'il disait ne m'intéressait pas. Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'était les mots. Car j'avais la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection, comme d'autres font pour les timbres. J'adorais grenade, fumée, bourru, vermoulu et surtout manivelle. Et je me les répétais souvent quand j'étais seul pour le plaisir de les entendre. Or, dans les discours de l'oncle, il y en avait de tout nouveau et qui étaient délicieux. Damasquiné, florilège, filigrane, ou grandiose, archiépiscopale, plénipotentiaire. Lorsque sur le fleuve de son discours, je voyais passer l'un de ces vaisseaux à trois ponts, je levais la main et je demandais des explications qu'il ne me refusait jamais. C'est là que j'ai compris pour la première fois que les mots qui ont un son noble contiennent toujours de belles images. Mon père et mon oncle encourageaient cette manie qui leur paraissait de bon augure. Si bien qu'un jour, et sans que ce mot se trouvât dans une conversation, il en eût été le premier surpris, ils me donnèrent anticonstitutionnellement, en me révélant que c'était le mot le plus long de la langue française. Comme j'en oubliais toujours quelques syllabes, il fallut me l'écrire sur la note de l'épicier que j'avais gardée dans ma poche. Je le recopiais à grand-peine sur une page de mon carnet, et je le lisais chaque soir dans mon lit. Ce n'est qu'au bout de plusieurs jours que je pus maîtriser ce monstre, et je me promis de l'exploiter si par hasard un jour, vers la fin des temps, j'étais forcé de retourner à l'école.
D'abord, j'ai été confondu par ta beauté. Ces grandes filles d'or aux jambes longues, si timides d'abord, devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre, si timide. Et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel, le vent des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil, sulfureuse ta lumière, et les fuites livides de ton lait tête foudroient le ciel, les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leur peau patinée de pierre. Mes 15 jours sur les trottoirs chauves de Manhattan. C'est au bout de la 3e semaine que vous saisit la fièvre à nos bonds de jaguar. 15 jours, sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l'air tombant soudain est mort sur les hautes cendres des terrasses. Pas un rire d'enfant en fleurs. Sa main dans ma main fraîche. Pas un sein maternel. Des jambes de nylon, des jambes et des seins sans sueur ni odeur. Pas un mot tendre en l'absence des lèvres. Rien que des cœurs artificiels pèsent en monnaie forte. Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit les cristaux de corail.
d'un sommier. Oh, nuit de Manhattan si agitée de feu follet. Tandis que les klaxons hurlent des heures vite et que des eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleuves incrus de cadavres d'enfants. Voici le temps des signes et des contes. New York. Or, voici le temps de la manne et de l'hysope. Il n'est que d'écouter les trombones de Dieu, ton cœur battre au rythme du sang, ton sang. J'ai vu dans Harlem, bourdonnant de bruit de couleurs solennelles et d'odeurs flamboyantes, c'est l'heure du thé chez le livreur en produits pharmaceutiques. J'ai vu se préparer la fête de la nuit à la fuite du jour. Je proclame la nuit plus véridique que le jour. C'est l'heure pure où dans les rues, Dieu fait germer la vie d'avant-mémoire. Tous les éléments amphibies rayonnant comme des soleils. Harlem. Harlem. Voici ce que j'ai vu. Harlem. Harlem. Une brise verte de blé, soudre des pavés labourés par des pieds nés des danseurs tant. Croupe. Onde de soie, sang de fer de lance, palais de nénuphars et de masques fabuleux. Au pied des chevaux de police, les mangues de l'amour roulaient les maisons basses. Et j'ai vu le long des trottoirs des ruisseaux de rhum blanc, des ruisseaux de lait noir. Dans le brouillard bleu des cigares. J'ai vu le ciel neiger au soir des fleurs de coton, des ailes de séraphin et des panaches de sorciers. Ta voix mâle de cuivre, ta voix vibrante de hautbois, et l'angoisse bouchée de tes larmes tomber en gros caillots de sang. Écoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam sang et tam-tam, rythme et sang du tam-tam, tam-tam sang et tam-tam. Je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang, qu'il dérouille tes articulations d'acier comme une huile de vie, qu'il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes. Voici revenir les temps très anciens, l'unité retrouvée, la réconciliation du lion, du taureau et de l'arbre.
l'idée liée à l'acte, l'oreille au cœur, le signe au sens. Voici tes fleuves bruissants de caïmans musqués et des lamantins aux yeux de mirage. Et nul besoin d'inventer les sirènes, mais il suffit d'ouvrir les yeux à l'arc-en-ciel d'avril et les oreilles, surtout les oreilles, à Dieu qui, d'un rire de saxophone, créa le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il dormit. Du grand sommeil, nègre.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM, Voix du texte. Offrons maintenant à nos très chers auditeurs 7 minutes 14 de langage parlé à tendance animalière.
Joie de Franck. 32 ans, chasseur écologique nouvelle génération, break diesel banalisé, bracelet de chance brésilien, super tool à la ceinture, ex-couche prolétarienne, gérant de 3 librairies crêperies sur le site, propriétaire d'un pylône à palombe, une moyenne de 123 tués par an, et mangé. On n'aime pas tuer, ça n'a rien à voir avec tuer, on tue pas. On prélève absolument, contrôle du biotope, bagage de tous les volatiles possibles. J'ai un GPS, on peut même suivre les ours. J'ai installé une webcam dans la grotte, destinée aux usagers de la nature bloqués chez eux. Hivernage en temps réel, on va vous remettre des loups vers pommes dans le bocage. Après chasseur, il fera artiste dans la post-campagne. Installateur de jardin avec réserve naturelle, ménagerie maison, observatoire à poissons enterrés dans l'étang, télescope pour photographier les mouches à 3 km. C'est donc très bientôt déjà. Ajoutez ici une traditionnelle vue de campagne avec immense prairie ponctuée de très grands arbres au feuillage fin et dense. Une meute de chiens glisse dans une houle noire et blanche d'aboiements légers pygmées. Kidi, kidam, cookie, call, kin, kin, kaki, kouk, ça cavale. À la poursuite d'un renard mauve. Dans le halo brûlant qu'on se fait au fond des yeux, dans l'autre sens, sur l'écran noir en soi qu'on regarde, dans l'autre sens, j'ai vu le lapin fluo. Acide dans noir total, faisant ses affaires, comme une étoile sur un champ cosmos, petit goût de fer sur la langue, batterie acide dans les prés, il neige. J'ai froid. Un néon bleu s'imprime sur le blanc, blanc, bleu, alternatif. Je devrais pas rester comme ça si longtemps dehors sur ce balcon, il fait trop froid. Je vais prendre froid. Mais je suis obligé d'être dehors, devant, c'est impossible, je tiendrai pas. À partir de combien en dessous de 0 degré on meurt ?
Alphonse Daudet, lettre de Montmoulin. Le sous-préfet au champ. Monsieur le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, laquais derrière. La calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours général de la combe aux fées. Pour cette journée mémorable, monsieur le sous-préfet a mis son bel habit brodé, son petit claque, sa culotte collante à bandes d'argent et son épée de gala à poignée de nacre. Sur ses genoux repose une grande serviette en chagrin gaufré qu'il regarde tristement. Monsieur le sous-préfet regarde tristement sa serviette en chagrin gaufré. Il songe au fameux discours qu'il va falloir prononcer tout à l'heure devant les habitants de la Combe aux Fées. Messieurs et chers administrés. Mais il a beau tortiller la soie blonde de ses favoris et répéter 20 fois de suite « Messieurs et chers administrés », la suite du discours ne vient pas. La suite du discours ne vient pas, il fait si chaud dans cette calèche. À perte de vue, la route de la Combe aux Fées poudroie sous le soleil du midi. L'air est embrasé, et sur les ormeaux du bord du chemin, tout couverts de poussière blanche, des milliers de cigales se répondent d'un arbre à l'autre. Tout à coup, monsieur le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d'un coteau, il vient d'apercevoir un petit bois de chêne vert qui semble lui faire signe. Le petit bois de chêne vert semble lui faire signe. Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet, pour composer votre discours. Vous serez beaucoup mieux sous mes arbres. Monsieur le sous-préfet est séduit. Il saute à bas de sa calèche et dit à ses gens de l'attendre qu'il va composer son discours dans le petit bois de chêne vert. Dans le petit bois de chêne vert, il y a des oiseaux, des violettes et des sources sous l'herbe fine. Quand ils ont aperçu monsieur le sous-préfet avec sa belle culotte et sa serviette en chagrin gaufré, les oiseaux ont eu peur et se sont arrêtés de chanter. Les sources n'ont plus osé faire de bruit. Et les violettes se sont cachées dans le gazon. Tout ce petit monde-là n'a jamais vu de sous-préfet et se demande à voix basse quel est ce beau seigneur qui se promène en culotte d'argent. À voix basse, sous la feuillée, on se demande quel est ce beau seigneur en culotte d'argent. Pendant ce temps-là, monsieur le sous-préfet, ravi du silence et de la fraîcheur du bois, relève les pans de son habit, pose son claque sur l'herbe et s'assied dans la mousse au pied d'un jeune chêne. Puis il ouvre sur ses genoux sa grande serviette de chagrin gaufré et en tire une large feuille de papier ministre. « C'est un artiste !» dit la fauvette. « Non, dit le bouvreuil, ce n'est pas un artiste, puisqu'il a une culotte en argent. C'est plutôt un prince. »« C'est plutôt un prince, dit le bouvreuil. » « Ni un artiste ni un prince, interrompt un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la sous-préfecture. Je sais ce que c'est. C'est un sous-préfet. » Et tout le petit bois va chuchotant. « C'est un sous-préfet. C'est un sous-préfet. » « Comme il est chauve, remarque une alouette à grande huppe. » Les violettes demandent « Est-ce que c'est méchant ? Est-ce que c'est méchant ? » demandent les violettes. Le vieux rossignol répond « Pas du tout. » Et sur cette assurance, les oiseaux se remettent à chanter. Les sources à courir, les violettes à embaumer, comme si le monsieur n'était pas là. Impassible au milieu de tout ce joli tapage, monsieur le sous-préfet invoque dans son cœur la muse des comices agricoles et, le crayon levé, commence à déclamer de sa voix de cérémonie « Messieurs et chers administrés !»« Messieurs et chers administrés !» dit le sous-préfet de sa voix de cérémonie. Un éclat de rire l'interrompt. Il se retourne et ne voit rien qu'un gros pivert qui le regarde en riant, perché sur son claque. Le sous-préfet hausse les épaules et veut continuer son discours, mais le pivert l'interrompt encore et lui crie de loin. « À quoi bon ?»« Comment à quoi bon ?» dit le sous-préfet qui devient tout rouge. Et, chassant d'un geste cette bête effrontée, il reprend de plus belle. « Messieurs et chers administrés !»« Messieurs et chers administrés !» a repris le sous-préfet de plus belle. Mais alors, voilà les petites violettes qui se haussent vers lui sur le bout de leur tige et qui lui disent doucement « Monsieur le sous-préfet !» Sentez-vous comme nous sentons bon ? Et les sources lui font sous la mousse une musique divine. Et dans les branches, au-dessus de sa tête, des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus jolis airs. Et tout le petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours. Tout le petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours. Monsieur le sous-préfet, grisé de parfum, ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau charme qui l'envahit. Il s'accoude sur l'herbe, dégrafe son bel habit, balbutie encore deux ou trois fois « Messieurs et chers administrés, messieurs et chers messieurs et Puis il envoie les administrés au diable, et la muse des comices agricoles n'a plus qu'à se voiler la face. « Vole-toi la face, ô muse des comices agricoles !» Lorsque, au bout d'une heure, les gens de la sous-préfecture, inquiets de leur maître, sont rentrés dans le petit bois, ils ont vu un spectacle qui les a fait reculer d'horreur. Monsieur le sous-préfet était couché sur le ventre, dans l'herbe, débraillé comme un bohème, il avait mis son habit bas, et, tout en mâchonnant des violettes, monsieur le sous-préfet faisait des vers.
Ainsi s'achève Voix du texte, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission. La Chromos Compagnie présentera les 4, 5, 6, 7, 8 février 2009 au Théâtre du Temps à Paris, entretien avec le professeur Y de Céline. Le Théâtre du Temps se trouve 9 rue du Morvan, dans le 11e métro 9, Voltaire. Pour tout renseignement sur l'émission que vous venez d'écouter et sur le spectacle qui vient d'être signalé, chromoscompagnie@yahoo.fr. Le contact de la compagnie se trouve sur le site de FPP. Si vous n'avez pas eu le temps de sauter sur votre crayon à papier, à très bientôt. Et pour terminer, laissons le mot de la fin à Sacha Guitry qui s'était préparé une liste de mots de la fin.
Ô vous qui me faites la grâce de m'écouter, je ne veux pas que ce soit en vain. J'ai précisément recueilli à votre intention une dizaine de mots de la fin qui me semblent avoir le plus vif intérêt. La mort de Lope de Vega m'a été contée par une personne digne de foi, et cette mort la voici telle quelle, littéralement traduite, avec un mot grossier qui a son équivalent en espagnol. Je m'excuse du mot grossier, mais je m'en voudrais de trahir la pensée du grand poète madrilène. Une semaine avant sa mort, ne doutant pas qu'elle fût proche, il dit à son médecin, « À la seconde où tout espoir sera perdu, ne manque pas de m'avertir que je vais passer de vie à trépas. » Ah, « Et pour quelle raison ?» demanda le médecin. « Parce que, répondit-il, j'ai une révélation à faire, d'une importance extrême, mais pour ne pas la conserver par-devers moi, il faut que je sois absolument certain de ne pas lui survivre. » 8 jours plus tard, le médecin ayant constaté que les battements du cœur de Lope de Vega devenaient à peine perceptibles, il se pencha à son oreille et lui dit, « Lope de Vega, tu vas mourir. » Alors Lope de Vega fit un très grand effort et laissa tomber ces mots dans le silence, « Dante m'a toujours emmerdé. » Forain mourait et son médecin l'examinait encore. « Franchement, monsieur Forain, je vous trouve en bien meilleur état qu'hier. Vous n'avez plus de température, le pouls est régulier. » Et votre tension est absolument normale. Oui, en somme, conclut Forain, je meurs guéri. Vaugelas, illustre grammairien, à l'instant de sa mort, put encore établir 2 règles de grammaire. Ayant dit « je m'en vais », il se reprit « où je m'en vas ». Dans un murmure, il expliqua, l'un et l'autre se dit, puis, rendant le dernier soupir, il ajouta « ou se disent. J'aime infiniment ce mot de Champfort qui ne désirait pas recevoir l'extrême onction et qui, pour l'éviter, dit à l'oreille d'un de ses amis en expirant, « Je vais faire semblant de ne pas mourir. » Âgé de 102 ans, Fontenelle expirait. « Qu'éprouvez-vous, monsieur ?» lui demanda son médecin. « Oh, rien qu'une très grande difficulté à vivre, docteur. » Eugène Labiche allait mourir et l'un de ses proches, veuf et pieux, lui demandait « Vous qui allez revoir au paradis ma femme, dites-lui s'il vous plaît que je l'aime toujours et que je pense constamment à elle. » Alors Labiche lui répondit « Écoute, vraiment, tu pourrais faire tes commissions toi-même. » Hector Berlioz, en rendant le dernier soupir, murmura « Oh, quel talent je vais avoir demain. » Villiers de l'Isle-Adam dit en expirant ce mot fameux, « Eh ben, je m'en souviendrai de cette planète. » Et Francis de Croisset, sentant qu'il nous quittait, avoua délicieusement, « Oh, je m'ennuie déjà. » Quant à moi, je voudrais mourir le plus tard possible, non seulement de vieillesse, mais avec une lenteur extrême et accablé aussi d'infirmités nombreuses. Il me faudra bien cela pour que je parte sans trop de regrets. Donc, s'il vous plaît, qu'on veuille bien ne pas abréger ma vie d'une seconde, même par pitié pour ceux qui seront alors autour de moi. Une seconde de plus, pensez donc, c'est énorme. Songez qu'en une seconde, à ma dernière minute, je puis apprendre qu'on vient de découvrir la guérison du cancer. Quelle belle mort j'aurai. Ou bien alors, si je dois mourir soudainement, que ce soit au théâtre sur scène. N'oublions pas que l'agonie de notre adorable patron Molière a commencé sur le plateau. Il est mort maquillé, Molière. Quel est le comédien qui ne l'envierait pas?